Et quand arriva le septième mois, les fils d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait commandé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdras le sacrificateur apporta la loi devant la congrégation des hommes et des femmes et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Et il y lut devant la place qui est devant la porte des eaux, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui avaient de l'intelligence. Et tout le peuple prêtait l'oreille au livre de la loi. Et Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait faite pour l'occasion. Et Matithia, et Shema, et Anaïa, et Uri, et Ilkija, et Maaseïa se tenaient à côté de lui, à sa droite. Et à sa gauche, Pédaïa, et Mishaël, et Malkija, et Hacham, et Hashabdanaï, Zacharie et Meshulam. Et Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et quand il l'ouvrit, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen ». En élevant les mains, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et Jeshua et Bani et Sherebia, Jamin, Akub, Shaptaï, Odija, Maaseïa, Kelita et Azaria, Ozabad, Anan, Pelaïa et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple se tenait à sa place, et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Et Néhémie, qui était le Tirshatha, et Esdras, le sacrificateur, le scribe, et les Lévites qui faisaient comprendre au peuple ce qu'on disait, dirent à tout le peuple, « Ce jour est saint à l'Éternel votre Dieu », ne menez pas deuil et ne pleurez pas. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et Néhémie leur dit, « Allez, mangez de ce qui est gras, et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Et ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et les Lévites tranquillisèrent tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, et ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Et le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe, et cela pour devenir intelligents dans les paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait commandé par Moïse que les fils d'Israël devaient habiter dans des tabernacles pendant la fête du septième mois, et qu'ils devaient faire entendre et faire passer une proclamation dans toutes leurs villes et à Jérusalem, disant « Sortez dans la montagne et apportez des branches d'olivier, des branches d'olivier sauvage, et des branches de myrte, et des branches de palmier, et des branches d'arbres touffus pour faire les tabernacles comme il est écrit. » Et le peuple sortit et en apporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit et dans leur cour et dans les parvis de la maison de Dieu, et sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Et toute la congrégation de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tabernacles, et ils habitèrent dans les tabernacles, car les fils d'Israël n'avaient pas fait cela depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là, et il eut une très grande joie, et on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Et ils célébrèrent la fête 7 jours, et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle selon l'ordonnance. Quelques versets au chapitre 9. Et le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël s'assemblèrent avec jeûne, et vêtus de sacs, et avec de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les fils de l'étranger, et ils se tinrent là et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Et ils se levèrent à leur place et lurent dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un quart ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jéchua, Bani, Kadmiel, Shebania, Uni, Sherebia, Bani et Kenani se levèrent sur l'estrade et crièrent à haute voix à l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Jéchua, Kadmiel, Bani, Hashabnia, Sherebia, Odija, Shebania et Petakia dirent: levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité, et qu'on bénisse le nom de sa gloire qui est haut élevé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Tu es le même, toi seul, ô Éternel. Nous nous situons au temps où Dieu a ramené un petit résidu qui avait été transporté à Babylone dans sa terre. Et ce retour s'est effectué, comme nous le savons, en 3 étapes. La première au début du livre d'Esdras, sous Zorobabel, fils de Shealtiel, le représentant de la lignée royale, sans couronne et sans trône, et Joshua, le grand sacrificateur. Ils étaient un peu moins de 50 000 personnes qui avaient disposé leur cœur, étant réveillés par l'Esprit de Dieu, pour remonter à Jérusalem, et selon l'ordre du roi Cyrus, pour y bâtir la maison de l'Éternel. Et nous savons que le premier élément qui a été mis en place, c'est l'autel de l'Éternel, pour que le peuple réalise sa relation avec Dieu, avec l'Éternel, sur la base d'un sacrifice. Puis, la maison de l'Éternel a commencé à être construite par ses fondements. Et nous savons qu'il y a eu un temps de relâche lié à un état moral déficient. Et pendant plusieurs années, le peuple, selon ce qu'Agé nous révèle, s'était sans doute employé avec beaucoup d'activité à satisfaire son égoïsme, à s'occuper de ses maisons lambrissées, abandonnant du même coup la maison de l'Éternel. Mais sous l'impulsion des prophètes et de leurs prophéties, Zacharie et Agé ont réveillé, par l'Esprit de Dieu bien sûr, le cœur de ce peuple, ses affections pour l'Éternel, de telle sorte qu'en 4 ans, la maison a été bâtie, selon la volonté de Dieu. Puis, au chapitre 7, nous voyons une deuxième étape, c'est celle d'Esdras, montant à Jérusalem, comptant sur le secours de son Dieu, la bonne main de son Dieu, pour ramener un peu moins de 2000 personnes avec des trésors pour la maison de l'Éternel. Et nous voyons combien ce scribe était préparé comme instrument de Dieu pour présenter la parole de l'Éternel. Il y a de très belles expressions au chapitre 7 le concernant. Tout d'abord, il connaît très bien sa généalogie comme un vrai sacrificateur. Il peut en faire état et remonte jusqu'à Aaron, le souverain sacrificateur institué par Dieu. Il nous est dit qu'il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis un peu plus loin, au verset 9, il est dit que la bonne main de Dieu était sur lui, cet Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel et à la faire et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Nous nous situons donc en 468, quelques 68 ans plus tard que le premier retour. Et nous voyons, nous assistons à ce merveilleux travail de la grâce, cette confession d'Esdras pour vis-à-vis de l'Éternel, s'unissant à ce peuple pour confesser ses péchés. Il y a un travail merveilleux qui est produit dans les cœurs pour se placer devant Dieu en réalisant le sérieux des temps, la ruine qui avait atteint ce peuple à cause de sa désobéissance. Et puis, le troisième retour, c'est celui de Néhémie. Néhémie, un autre instrument, quelques 13 ans après la venue d'Esdras, instrument préparé par Dieu, bien différent quant aux dons reçus de la part de Dieu, et nous voyons ces deux hommes qui exercent leurs dons en pleine harmonie, chacun prenant la place que Dieu lui donne dans la crainte qui lui revient. Et ce Néhémie est employé, lui, désormais pour bâtir, pour reconstruire la muraille. Jérusalem était encore sans protection, sans sécurité. Sans doute l'autel avait été placé sur son emplacement. Le temple était construit et le peuple donc avait un centre de rassemblement. Encore fallait-il qu'il soit en sécurité. Et c'est ce à quoi s'emploie cet homme de Dieu dont nous voyons le cœur au chapitre 1er, où sa mission est clairement définie. Dieu définit toujours la mission qu'il confie aux siens, à ses instruments préparés à l'avance. Sans doute Néhémie était né dans une des provinces de Babylone et il vient là au moment opportun où sans doute il n'était plus question d'Esdras et le chapitre 8 va être l'occasion de faire apparaître ce scribe pour qu'il accomplisse pleinement sa mission, lui aussi. Néhémie avait tout préparé. La construction de la muraille, comme nous le voyons, après que il se soit humilié devant Dieu, il se lève et encourage les fils de son peuple à construire cette muraille, à réparer les brèches. Et nous voyons cette activité de tout le peuple, y compris les femmes, pour construire cette muraille, chacun devant sa maison, chacun une portion. C'est un chapitre tout à fait remarquable. Et sans doute, Néhémie a rencontré beaucoup d'obstacles, comme nous le savons, mais il est plein d'énergie en s'appuyant sur son Dieu. Obstacle du dehors, l'ennemi qui voulait entraver cette œuvre, réalisant que si cette muraille était construite avec ses portes, eh bien, l'ennemi n'aurait pas droit d'accès dans la ville sainte. C'était une protection et cela mettait aussi une séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. Il y a là des trésors que la foi apprécie. Et ennemi du dehors, ennemi du dedans, auquel il doit faire face par un vrai désintéressement. Il s'emploie au bien du peuple de Dieu, n'ayant en vue que la gloire de Dieu, ne tenant pas compte de ses propres besoins, mais ayant à cœur le bien de son peuple. Et puis, au chapitre 6, la muraille est achevée en 52 jours. Donc, c'est un élément clé pour la suite, et en particulier pour ce chapitre 8. Et le peuple est ainsi établi, rassemblé dans sa ville, selon la pensée de Dieu. Mais alors, pour se maintenir dans cet état dans lequel il est placé par la bonté de Dieu, qu'il n'aurait jamais dû quitter, bien sûr, mais à cause de son idolâtrie, Dieu l'avait chassé de sa terre pendant 70 ans, comme Jérémie l'annonce à deux reprises au chapitre 25 et au chapitre 29. Mais Dieu avait prévu aussi, dans sa bonté, un retour d'un petit résidu dans sa terre, dans sa ville sainte, pour y accueillir, quelques 4 siècles plus tard, le vrai Messie. Et nous voyons donc que seule la parole de Dieu pouvait répondre à ce besoin du peuple de se maintenir dans la position dans laquelle il était désormais placé. Et cette ressource est aussi pour nous aujourd'hui. Il n'y a que la parole qui puisse nous établir dans la position qui est la nôtre par grâce. Et c'est pourquoi nous assistons à ce besoin de tout le peuple. Il y a là une unité remarquable dans ce rassemblement, ce besoin d'entendre la parole de Dieu. Et la parole est lue, la parole est ouverte, et le scribe est tout à fait à sa place pour la lire distinctement, pour le profit de chacun, y compris des enfants qui avaient l'intelligence pour comprendre ce qui était lu. Et nous voyons tout le soin que les Lévites, les vrais Lévites qui entourent Esdras, mettent à faire comprendre cette loi du Dieu vivant, du Dieu qui avait présenté sa loi en Sinaï. Et nous savons quel a été le tremblement du peuple lorsqu'il a écouté cette voix de l'Éternel. Mais ici, nous sommes profondément remués en voyant le respect que tout ce peuple a pour la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant. Et il y a des effets immédiats qui sont produits, c'est le deuxième paragraphe, les pleurs, la contrition de cœur devant ce qui était révélé par la loi, qui sans doute, lors de leur exil en Babylonie, avait été probablement mise de côté, sauf cas particulier, et là, la parole reprend tout son vrai sens, ils donnent à Dieu sa vraie suprématie et eux-mêmes se tiennent à leur vraie place dans la soumission de cœur à l'autorité de la parole de Dieu. Mais alors, ce rassemblement, comme nous le voyons au début de ce chapitre, avait lieu le premier jour du 7e mois, qui était le jour de la fête des trompettes, un jour de repos, un jour consacré à Dieu, une des 7 fêtes de l'Éternel, et dans laquelle le peuple pouvait se réjouir en l'Éternel. Et ils sont informés qu'ils ne devaient pas pleurer, mais se réjouir. Et ainsi nous voyons que le peuple se soumet à l'injonction de Néhémie et d'Esdras et des Lévites qui étaient là. Et il découvre, en lisant la loi, qu'il devait aussi célébrer la fête des tabernacles qui avait lieu ce même 7e mois et qui parlait de la restauration à venir de tout le peuple terrestre de Dieu. Et cela est de toute beauté, puisque cette fête n'avait pas été célébrée selon toutes ses prescriptions comme elle l'a été ici depuis le temps de Josué. Même dans les jours glorieux de Salomon, on ne s'en était pas tenu fidèlement aux prescriptions de l'Éternel quant à cette fête. Et alors vient un temps pour l'humiliation et la confession, et c'est ce à quoi nous assistons au chapitre 9, où nous voyons le travail de la grâce de Dieu produit par la lecture de la parole de Dieu. Il se réfère constamment tout au long de ce chapitre à la parole de Dieu, aussi bien ceux qui enseignent que ceux qui écoutent. Et combien cela est important et quelle leçon cela nous donne à chacun pour donner à la parole la place qui lui est due au sein du rassemblement des rachetés du Seigneur. Que cette parole produise tous ses effets bénis en chacune de nos vies et dans nos familles et dans les assemblées.
L'actualité de la parole de Dieu. Pourquoi considérer ensemble un chapitre comme celui-ci, concernant un épisode apparemment sans grande portée, concernant un petit peuple, quelques milliers de personnes remontées de la captivité de Babylone il y a quelques 2500 ans. Mais voilà, nous sommes dans des temps bien proches moralement de ceux de Néhémie. On a parlé de la fin d'une économie et ici, nous avons affaire avec ces livres d'Esdras et de Néhémie au dernier coup d'œil, si l'on peut dire, que nous pouvons porter sur l'histoire d'Israël, telle qu'elle nous est rapportée dans l'Ancien Testament, pour notre instruction, nous est-il dit dans les Corinthiens. Donc, d'une criante actualité, parce que cette histoire concerne le peuple terrestre de Dieu et nous montre son déclin au fil des années, au des siècles, et en même temps la grâce de Dieu pour donner des réveils, pour restaurer, pour consoler. Et là, nous sommes au tout dernier jour. Nous savons qu'il y a encore environ 400 ans qui vont s'écouler jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, mais sur lesquels la parole ne nous dit rien. Nous avons donc dans Néhémie la fin de cette histoire. Et nous sommes arrivés avec l'histoire de l'Église responsable au tout dernier jour. Des jours qui comportent tant d'analogies avec les temps qui sont là devant nous. Et dans lesquels nous pouvons à la fois faire un bilan, un triste bilan, comme le chapitre 9 nous invite à le faire, en nous y associant sans doute de cœur. Mais en même temps, considérer ces ressources immuables du côté de Dieu, sur lesquels nous pouvons nous appuyer, que nous pouvons faire nôtre, dont nous pouvons profiter, comme aujourd'hui, voilà, nous avons une scène qui a une certaine ressemblance avec notre chapitre 8. On s'assemble, pourquoi ? Pour écouter la parole, ce que Dieu a à nous dire. Et dans les noms mêmes portés par ces deux hommes de Dieu, on vient de rappeler Esdras et puis Néhémie, nous avons, comme souvent dans l'écriture, un sens qui est très parlant. Néhémie signifie consolation de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un temps où nous pourrions avoir davantage besoin de consolation que celui dans lequel on verse des larmes sur un état de faiblesse et de détresse et on est dépassé par tant de choses et voilà, il y a tout de même là, de la consolation, et ne vient que de l'Éternel. Il ne peut venir que du Seigneur, cette consolation. Et en plus, si nous n'avons pas là quelque chose qui nous rappelle que nous n'avons pas seulement une consolation, mais que nous avons un consolateur. Néhémie est là, de la part de Dieu, serviteur suscité au moment favorable pour apporter cette consolation. Mais son nom même nous montre qu'il est un consolateur. Qui est notre consolateur? Et nous l'avons toujours avec nous. Le Saint-Esprit. Je vous envoie un consolateur, a dit le Seigneur Jésus. Et si vous avez le consolateur, vous avez aussi la consolation. Par contre, on peut avoir des consolations sans avoir le consolateur. Mais nous avons avec nous, chers frères et sœurs, et nous nous en souvenons, cette ressource de la parole. Nous avons chanté quelque chose et nous avons rendu grâce pour cette parole. Mais nous avons aussi celui, personne divine, qui peut nous la faire comprendre. Un consolateur. Suscité par Dieu, donné par Dieu, aussi pour les temps de faiblesse dans lesquels nous sommes. Il n'a pas perdu, nous avons lu tout à l'heure à propos de Dieu, tu es le même, toi seul. Saint-Esprit n'a pas perdu de sa puissance. Donc la ressource est là, dans une personne. Ezra signifie secours. Eh bien, si nous avons besoin de consolation, hein, consolation, c'est, on dirait, c'est très beau d'essuyer des larmes, mais si vous n'apportez rien pour redonner quelque force, eh bien, nous avons là, dans cette personne, Esdras, voilà, dans son nom même, le secours. Et Dieu a suscité cet homme de Dieu, avec tout son passé intéressant, c'est au chapitre 7 d'Esdras qui nous est donné quelques détails sur lui. Il était lui-même versé dans la loi qu'il enseignait. Il n'enseignait pas ce qu'il ne connaissait pas, ni ce qu'il ne réalisait pas, mais il est là. Et là, la place principale lui est donnée dans ce chapitre. Le Tirshatha, Néhémie, Séphas, était l'homme de Dieu suscité pour la reconstruction de la muraille. Mais maintenant, voilà, à l'abri, la séparation est réalisée. Le petit résidu est là bien à l'abri des ennemis. Il n'est plus question d'eux dans notre chapitre. Il y en a beaucoup question avant. On pense à ce verset du psaume 23, n'est-ce pas ? Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Et nous avons là la table dressée, le repas spirituel partagé par ce faible résidu. Pensée bien précieuse sur laquelle nous avons l'occasion de nous arrêter.
On vient de nous présenter une pensée bien réconfortante qui est celle des ressources de Dieu à l'égard de son peuple. Il y a une autre pensée qui interpelle notre conscience parce qu'elle parle de notre responsabilité. Et il serait bien regrettable d'oublier ce côté-là de ce chapitre si important de Néhémie. Remarquons tout d'abord que cette fête de la restauration, cette fête du réveil, ne peut être célébrée qu'après que la muraille fut terminée. Il y a eu donc tout un travail préparatoire qui était nécessaire avant que la parole de Dieu puisse avoir ses pleins effets dans les cœurs et dans tout le peuple. Nous lisons au chapitre 6e et au verset 13 « Et la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. » Le mois d'Elul était le 6e mois et notre chapitre s'ouvre sur le premier jour du 7e mois. Il y a eu donc encore pour préparer cette fête des trompettes, il y a eu donc une dizaine de jours, même pas pour que le peuple puisse prendre conscience du sens de son engagement par la construction des murailles pour pouvoir en réaliser alors toutes les bénédictions. Remarquons aussi que ce début du chapitre 8e correspond un peu au moment où Esdras a décidé, avec le secours de l'Éternel, plutôt Zorobabel, puisqu'Esdras n'était pas encore monté à Jérusalem. Dans le chapitre 3 d'Esdras, Zorobabel avait décidé de construire l'autel. Mais que s'est-il passé avant que Zorobabel ne construisît l'autel ? Il y a eu l'établissement des généalogies. Et de même, avant qu'il y ait cette ouverture de la parole de Dieu qui débouche sur la fête des trompettes, il y a eu l'établissement des généalogies. Et c'est un établissement qui a été fait très sérieusement, puisqu'il est dit qu'au verset 64 du chapitre 7e de Néhémie, il est dit que certains furent exclus comme profane de la sacrificature. Il y a eu donc toute une prise de position, non seulement personnelle, mais collective, publique, jusqu'à ce qu'on arrive alors à ouvrir la parole de Dieu pour en saisir la plénitude de la bénédiction dans un engagement personnel. Ceci ouvre sur un constat constant et toujours renouvelé de la part de Dieu qu'il ne peut pas y avoir de réveil sans une prise de conscience personnelle et un engagement personnel de chacun devant Dieu. Et cela ouvre alors le problème de toute notre responsabilité engagée dans un réveil. Pas de réveil sans engagement personnel, ce n'est pas possible. Dieu a des ressources infinies, mais il ne les galvaude pas pour qui ne pourrait en faire un usage intelligent et profitable. Remarquons encore un autre fait qui est très remarquable. Depuis ce chapitre 8e jusqu'au chapitre 10e, le nom de Néhémie est complètement mis de côté. Dans ces chapitres, il ne sera cité que deux fois. Et cela est aussi une indication pour nous. Voilà un serviteur qui était actif, quelqu'un qui a su administrer, qui a su agir, qui a su combattre et qui a reçu beaucoup de coups et qui les a assumés et qui a amené à bien l'œuvre de l'Éternel dans des conditions extrêmement difficiles. Ne pensons pas qu'un serviteur est pieds et mains liés quand les circonstances sont adverses. Au contraire, c'est alors qu'il doit montrer sa fermeté. Eh bien, cela ressort de l'action extrêmement efficace avec le secours de l'Éternel d'un Néhémie. Mais voilà qu'au début de ce chapitre 8e, Néhémie se met complètement de côté. Complètement de côté. Il laisse la place à un serviteur qui sera plus doué que lui pour un service différent. Esdras n'a pas pu faire le travail de Néhémie. Néhémie n'a pas pu faire le travail d'Esdras. Il y a une complémentarité dans les dons et dans les ministères, c'est-à-dire l'accomplissement des dons. Il y a une complémentarité et non pas une opposition. Et combien ce principe est important aujourd'hui où on voudrait mettre en opposition des dons différents. Et c'est ainsi qu'on voit un don pour une certaine fonction qui veut se substituer à un autre don pour une autre fonction. Ceci est absolument contraire à la parole de Dieu et nous ne pourrons jamais assez insister sur le fait que des dons sont complémentaires dans la pensée de Dieu et jamais en opposition. Et quand un don veut se substituer à un autre don sans être adapté à la fonction à laquelle il est appelé, eh bien, il ne peut plus compter sur le secours de l'Éternel et il fera que du mal. Sachons reconnaître ce don devant Dieu et sachons l'accomplir sous son regard et avec son secours.
Nous avons dit que ce premier jour du septième mois, c'est donc le jour de la fête des trompettes. Mais ici, nous remarquons que ce n'est pas tellement le rétablissement des fêtes qui est en vue, que Dieu a en vue devant nous, mais le rétablissement de l'autorité de la parole de Dieu. Et cela doit avoir un écho dans nos cœurs et dans nos consciences. Il y a un réveil profond, et nous le voyons, comme nous le voyons dans le chapitre 3 d'Esdras. Il nous est dit que le peuple se leva comme un seul homme, et ce ne peut être que le travail de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut seul opérer cela dans les cœurs. Ce n'est pas la consultation de quelques-uns pour dire, eh bien, nous allons nous réunir sur la place et puis nous allons ouvrir la parole de Dieu. Non, c'est l'Esprit qui opère dans les cœurs, qui produit ce réveil. Et nous avons besoin aujourd'hui que la parole ait sa pleine autorité, qu'elle sonde nos cœurs, parce que souvent, nous l'avons entre nos mains, nous connaissons bien des vérités, mais on l'a dit, une vérité qui n'est pas vécue n'est pas une vérité qui est reçue. Si nous lisons le début du livre de Josué, que lisons-nous ? Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Si nous connaissons une vérité, nous devons y marcher. Et au fond, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous soit en secours pour opérer dans nos cœurs, pour produire ce réveil, parce que nous voyons bien aussi que la scène qui est devant nous, pour maintenir des personnes debout pendant 6 heures environ, seul l'Esprit de Dieu peut produire cela. Même il donne les forces physiques. Et bien que Dieu nous accorde la grâce d'avoir ce désir de rétablir l'autorité de la parole de Dieu, de ne pas la discuter, de ne pas avoir des pensées nouvelles, des pensées originales qui peuvent plaire, une musique agréable pour l'oreille. Non, tenons-nous-en à ce qui a été donné de Dieu au commencement.
Le peuple s'assembla sur la place qui est devant la porte des eaux. Cette porte des eaux se trouvait tout près du temple, et cette place était marquée d'un côté par la muraille avec la porte des eaux et d'un autre côté par la façade du temple. Cela a aussi une grande importance. Cela signifie qu'on ne peut pas séparer la lecture et l'accomplissement de la loi de l'Éternel dans les cœurs sans être près de Dieu. Cette place qui se trouvait tout près du temple, qui était le lieu de la résidence même de l'Éternel, était le symbole que le peuple désirait se rassembler tout près du temple et comme faire un corps avec le temple. Nous ne pouvons pas dissocier les deux choses. Et c'est au moment où le peuple s'assemble comme un seul homme, remarquons l'unité de pensée et d'action de ce peuple sur la place des eaux, que Esdras alors a ouvert la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la parole de Dieu dans une assemblée, dans une réunion d'assemblée, il y a une signification différente que quand nous l'ouvrons pour notre compte personnel. Et quand nous sommes dans la communion du Seigneur, personnellement, intimement, cela est hautement profitable et même nécessaire pour qu'il y ait la réalisation d'une même pensée autour de la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur, dans une réunion. Alors, cette parole sert d'unité. Elle sert à unir la pensée des croyants tous ensemble vers un même but et dans le même sentiment que Dieu est là, présent, et qu'il se manifeste dans sa parole, c'est-à-dire en nous parlant.
Comme un seul homme, on a remarqué que l'expression s'était déjà trouvée en Esdras 3 au premier verset pour l'établissement de l'autel sur son emplacement. Il y a eu ce désir initial, revenir de Babylone, pour nous, figure de la sortie du milieu de la Babylone religieuse ou dans laquelle il y a un mélange que nous connaissons bien et dont la parole nous parle suffisamment. Et puis il y a eu ce retour initial, l'autel a été bâti sur son emplacement, ça a été fait comme un seul homme. C'est un point de départ. Mais là, la parole doit être ouverte pour nourrir, pour instruire, pour fortifier ceux qui sont là, qui ont pris cette place. Et de nouveau, c'est comme un seul homme. Dans le livre des Actes, nous avons plusieurs fois l'expression d'un commun accord. Mais très belle cette expression. Elle nous montre aussi les premiers disciples qui ont cette même pensée, qui agissent parce qu'ils ont compris ensemble, et c'est inséparable de l'amour cela, comme un accord, comme un seul homme, on est attaché à la même personne, aux mêmes principes qui sont ceux de l'Écriture. Alors, on s'assemble comme un seul homme sur la porte des eaux, l'eau qui suggère bien sûr la parole et ce qui nous abreuve, ce qui nous rafraîchit. Et voilà, alors on s'adresse à Esdras, le scribe. Ici c'est le scribe, c'est donc quelqu'un qui connaît les Écritures, qui les transcrit lui-même. Et c'est frappant qu'au verset 2, il soit question de lui comme sacrificateur. Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant la congrégation. Est-ce que cela ne suggère pas qu'il y a aussi là, d'une part, la responsabilité du scribe vis-à-vis du peuple, instruire et être le moyen donné par Dieu pour la communication de la pensée de Dieu. Et ensuite, il va y avoir les Lévites aussi. Mais le sacrificateur, nous voyons cet homme plutôt tourné du côté de Dieu. Et il était effectivement un sacrificateur, on a rappelé que sa généalogie nous est donnée. Il se tourne vers le peuple, mais pour ainsi dire, d'abord il se tourne vers Dieu. Comme pour apprécier, rendre grâce de ce que le peuple a reçu. Il peut bénir le Dieu qui préside à cette circonstance, il est là l'intermédiaire, le porte-parole du peuple devant Dieu, et il est désigné là comme le sacrificateur.
Je t'ai permis de souligner quelque chose. Il est dit, le livre de la loi de Moïse, que l'Éternel avait commandé à Israël. Quand on lit seulement la loi, cela pourrait peser. Mais c'est la loi de l'Éternel pour le peuple d'Israël. Et nous avons aujourd'hui toute notre Bible devant nous. Et c'est la parole de Dieu. Et je voudrais exhorter, et surtout les jeunes, mais aussi, c'est vrai pour chacun de nous, l'amour de la parole. L'amour de la parole s'exprime comment, se manifeste comment. Rappelons dans Jean, l'évangile de Jean, 14, 15, 16, c'est par l'obéissance à la parole. Mais nous ne sommes pas sous une loi mosaïque. Pour nous, c'est la parole de grâce et nous obéissons à la parole par amour pour le Seigneur, étant lui-même la parole personnifiée. Et je voudrais encourager peut-être pour ceux qui disent, mais j'ai beaucoup de peine à me retrouver dans les Écritures, effectivement, ce n'est pas le don de chacun de pouvoir bien découper. Il peut recevoir quelque chose de la parole, il le reçoit, et avoir cet amour fervent pour sa parole. Nous pourrons lire beaucoup de choses à côté de la parole, qui expliquent la parole. Et c'est nécessaire, c'est des dons qui sont donnés. Mais chers frères et sœurs, revenons chaque fois à la source de cette parole de Dieu. Et cela est valable pour la frère et la sœur la plus humble jusqu'aux frères et sœurs les plus érudits. Nous devons revenir aujourd'hui à cette source de la parole. C'était souligné tout à l'heure. Il n'est pas inutile de le ressouligner cela. Mais je voudrais souligner l'amour de la parole de Dieu.
J'ai peut-être beaucoup de peine à rentrer dans tous ces secrets. Mais ce qui n'empêche pas d'aimer et d'obéir à la parole du Seigneur.
On a rappelé que Qu'Esdras était sacrificateur. Et si nous regardons en Esdras 7, nous voyons qu'il était un descendant de Phiné. C'était, on peut dire, un digne fils de Phiné qui, lors de l'épisode de Baal-Péor, avait été fidèle. Et nous trouvons en Malachie, justement, chapitre 2, des caractères qui ont été ceux de Phiné et qui sont ceux de la sacrificature fidèle. Nous avons en Malachie 2, verset 5, « Mon alliance avec lui était la vie et la paix. » Et nous savons que justement, la fidélité de Phiné dans cette circonstance a eu pour récompense une alliance de sacrificature perpétuelle. Et ici, dans ce chapitre 2 de Malachie, il est rappelé aussi « Mon alliance subsiste avec Lévi, dit l'Éternel des armées. » Et ici, Lévi est type de Christ. Et alors, concernant Phiné, il nous est dit « Je les lui donnais pour qu'il craignît. Et il me craignit et trembla devant mon nom. La loi de vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne se trouva pas sur ses lèvres. Il marcha avec moi dans la paix et dans la droiture, et il détourna de l'iniquité beaucoup de gens. Car l'élève du sacrificateur garde la connaissance, et c'est de sa bouche qu'on recherche la loi, car il est le messager de l'Éternel des armées. » N'oublions pas que le sacrificateur était en fait l'interprète régulier de la loi à ce moment-là, et que les prophètes étaient suscités dans des circonstances exceptionnelles, spéciales. Bien, voilà donc ici Esdras qui accomplit son service. Et on peut remarquer que dans le passage que nous avons devant nous, en Néhémie 8, il nous est dit que tout le peuple qui s'assemble comme un seul homme demande à Esdras d'apporter le livre de la loi. Il a montré des capacités pour être là avec d'autres de ses frères, l'interprète justement, pour être devant Dieu celui qui va enseigner. Et si nous voyons, cela a été rappelé tout à l'heure, si nous le voyons au chapitre 7, c'est qu'il avait disposé son cœur à rechercher cette loi, cette parole, à la faire et à l'enseigner. Il y avait un désir profond de son cœur d'être en bénédiction au milieu du peuple de Dieu. Et il avait fait ses preuves. Et cela est important dans l'exercice actuellement du ministère de la parole, que le Seigneur nous donne de discerner ainsi ceux qui ont fait leurs preuves et qui ont montré les qualités qui sont celles d'un serviteur de Dieu qui se tient devant son Seigneur.
Esdras, le scribe accompli de la loi, qui avait disposé son cœur pour la faire et pour enseigner cette loi. Nous avons donc l'amour de la parole et on a pu nous exhorter à nous attacher à la garder dans les temps où nous sommes. Nous pouvons remarquer que dans les réveils qui ont lieu dans la chrétienté, que ce soit dans la réforme, que ce soit au siècle passé, réveil auquel nous devons beaucoup, eh bien, les hommes de Dieu, les frères, se sont penchés sur les Écritures. Esdras, ici, nous donne un exemple et on a pu dire que le psaume 119, qui est le psaume le plus long de l'Écriture et qu'on a pu attribuer à Esdras, cela ne peut pas nous étonner, si même nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Eh bien, nous pouvons lire le premier paragraphe de ce psaume, le plus long de l'Écriture. Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie et qui marchent dans la loi de l'Éternel. Bienheureux ceux qui gardent ses témoignages et qui le cherchent de tout leur cœur, qui aussi ne font pas d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as commandé tes préceptes pour qu'on les garde soigneusement. Oh, que mes voies fussent dressées pour garder tes statuts. Alors je ne serai pas honteux, car quand je regarderai à tous tes commandements, je te célébrerai d'un cœur droit quand j'aurai appris les ordonnances de ta justice. Je garderai tes statuts, ne me délaisse pas tout à fait. Nous avons donc ici la loi, les témoignages, les voies de l'Éternel, les préceptes, les statuts, les commandements, les ordonnances. Cela attire notre attention, mes amis, sur cette parole de notre Dieu, la révélation complète des pensées de Dieu à notre égard, et il va sans dire que nous devons chérir cette parole, la lire avec prière, et nous devons le confesser, mes amis, nous savons beaucoup de choses et nous réalisons peu. Le Seigneur nous accorde de pouvoir lire cette parole, mais aussi de la garder dans nos cœurs, à garder dans des cœurs honnêtes et bons, pour pouvoir en vivre les enseignements dans ces temps fâcheux dans lesquels nous sommes.
Selon les prescriptions indiquées en nombre 10, lors des jours solennels, les trompettes devaient retentir. Nous ne voyons pas que ce rite, cela ne nous est pas dit que ce rite soit accompli ici. Mais ce qui a de l'importance pour ce peuple, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Et pour eux, il importait qu'elle soit lue. En Esdras, au chapitre 3, l'accent est plutôt mis sur les sacrifices, les holocaustes offerts sur l'autel établi sur son emplacement. Les relations du peuple avec Dieu retrouvées sur la base des sacrifices sanglants. Et nous avons, dans ces deux chapitres, les éléments fondamentaux de tout réveil durable. Combien cela a de l'importance pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, le culte, en esprit et en vérité, selon ce que le Seigneur indique à la femme samaritaine, adorer le Père en esprit et en vérité, et l'autorité de la parole de Dieu retrouvée. Et nous voyons que l'initiative appartient au peuple. Il éprouve un besoin d'entendre les paroles de Dieu. Et cela est de toute beauté sur le plan moral. Cette faim et cette soif pour ce que Dieu a révélé, pour sa parole de vérité. Ils ont besoin de cette nourriture spirituelle. Et le scribe accompli dans la loi de l'Éternel sera l'instrument privilégié pour cela. Donc nous voyons que si les réveils ne durent pas, hélas, quand nous considérons le côté de notre responsabilité, nous sommes toujours défaillants. Dieu reste fidèle. Dieu reste là avec ses ressources. Au temps de Agé, lorsqu'il a été l'instrument de Dieu pour produire un réveil dans le cœur du peuple, l'Éternel doit dire « Ma parole et mon esprit demeurent au milieu de vous, aussi bien que la présence de l'Éternel, les ressources permanentes de la foi dans tous les temps pour le peuple de Dieu. » Et ces ressources demeurent aujourd'hui encore. Donc il appartient au témoignage de rassembler des âmes autour du Seigneur, et c'est au serviteur qualifié par Dieu lui-même de mettre la vérité en évidence, proclamant les droits du Seigneur, sa prééminence, et faisant ressortir aussi le côté de la soumission du cœur à ce que Dieu nous dit dans sa parole. D'ailleurs, il n'y a aucune innovation dans ce que ce peuple demande. Cela était déjà prescrit par l'Éternel dans sa loi en Deutéronome 31. Nous voyons au verset 11 qu'il était dit « Au temps fixé au bout de 7 ans, au temps fixé de l'année de relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra pour paraître devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras cette loi devant tout Israël, à leurs oreilles, tu réuniras le peuple, hommes et femmes et enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent, afin qu'ils apprennent et qu'ils craignent l'Éternel votre Dieu, et qu'ils prennent garde à pratiquer toutes les paroles de cette loi, et que leurs fils qui n'en auront pas eu connaissance entendent et apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu tous les jours que vous vivrez sur la terre. Donc nous voyons toujours cette pensée de Dieu qui désire bénir son peuple par le moyen de sa parole. Sans doute, il y a la parole lue qui doit être une parole crue, et ensuite, il y a les effets pratiques de cette parole dans notre vie quotidienne. Voilà le processus divin. Et ainsi, nous sommes gardés à tous les niveaux de nous enfler par la seule connaissance des Écritures, et aussi de manquer de cette connaissance, selon ce qu'exprime un petit prophète, ce qui pourrait nous engager dans des voies de chagrin et de propre volonté. Mon peuple est détruit faute de connaissance, dit le prophète. Et nous avons des écueils à tous les niveaux. Mais la pensée de Dieu, c'est celle que traduit Esdras lorsqu'il est présenté au chapitre 7 de son livre, disposer son cœur tout d'abord à recevoir ce que Dieu nous dit, le pratiquer, l'enseigner parmi le peuple. Mais Dieu a suscité des dons pour l'édification des saints, pour la nourriture spirituelle, des dons fondamentaux que le Seigneur dispense pour l'édification du corps de Christ, pour l'œuvre du service, pour le perfectionnement des saints, selon l'expression de Éphésiens 4. Combien cela est important que des docteurs, des pasteurs, des prophètes puissent présenter la parole pour l'édification des saints. Et donnons son importance réelle, sa priorité, à la lecture de la parole de Dieu, avant même de l'étudier, la lire tout simplement comme un homme qui a faim se nourrit de pain pour satisfaire son besoin physique. Eh bien, le besoin de notre âme est aussi impérieux, si on peut dire, à savoir que nous ne pouvons la nourrir selon la pensée de Dieu que de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous traduit aussi en un langage très saisissant le prophète Jérémie, qui est un des derniers suscités avant que Dieu chasse son peuple complètement de sa terre pendant 70 ans. Eh bien, lui qui a beaucoup pleuré sur la ruine de la fille de son peuple, nous pouvons imiter sa foi aujourd'hui. Il peut dire « Tes paroles, chapitre 15, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » C'est bien ce réconfort que nous apporte la parole lorsque nous la lisons avec des cœurs sensibles comme celui du roi Josias qui lui aussi a pleuré, a déchiré ses vêtements devant ce que Dieu lui révélait par sa parole. Combien cette disposition de cœur est agréable à notre Dieu lorsque nous nous laissons sonder et que la parole pénètre au tréfonds de notre cœur et va produire des effets qui vont donner une nouvelle orientation à notre vie en vue d'une consécration plus marquée pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous, que nous avancions vers l'état d'homme fait, l'homme en Christ, qui jouit pleinement de sa position en Christ, telle que les écrits pauliniens nous la révèlent. Puissions-nous lire la parole de Dieu avec le secours du Saint-Esprit, avec prière et avec ce respect que manifeste ce peuple pour l'Écriture, en se prosternant devant Dieu, en prononçant son Amen deux fois répété. Et nous voyons combien cette disposition de cœur est agréable à Dieu. Que la grâce nous soit faite aussi de lire et de relire avec soin la parole de Dieu. Nous n'épuiserons jamais ses richesses. Elle est un trésor infiniment précieux pour chacune de nos âmes, quel que soit d'ailleurs notre état de croissance spirituelle. La parole répond à tous ses besoins.
Dans cette belle scène, nous pouvons donc considérer d'abord l'assistance au verset 2. Une congrégation des hommes et des femmes et devant tous ceux qui avaient de l'intelligence. Ce qui nous est répété au verset 3, verset 2 et verset 3, comme pour en souligner l'importance, l'intelligence. Il s'agit ici de l'intelligence naturelle. Et nous pouvons le confirmer par notre chapitre, puisque au verset 13, nous voyons que si l'on s'assemble, c'est pour devenir intelligent. Verset 13. Donc il s'agit là de l'intelligence, de la compréhension de la parole qui est lue. Les Lévites se sont attachés à la faire comprendre, et bien voilà, maintenant, elle est mieux comprise, elle est comprise, elle est saisie. Mais ici, dans cette expression, tous ceux qui avaient de l'intelligence, on a pu voir les enfants qui ont leur place dans le peuple de Dieu, qui ont à entendre de bonne heure les vérités de la parole. Encourageons-nous à amener nos enfants dans les réunions où ils peuvent recevoir un enseignement de la parole, même s'ils ne comprennent pas tout. Et ils enregistrent, les récits leur sont familiers. On peut ensuite en faire l'application. Un frère citait un exemple pris dans la nature, un troupeau. Voilà, il y a de petits agneaux qui sont parmi le troupeau. Ils sont nourris par leur mère, mais restant avec le troupeau, le moment venu, ils vont commencer à goûter l'herbe, quelques brins, et puis voilà, le petit agneau passe du lait maternel à l'herbe sur laquelle il se trouve déjà. Il est familier avec cet élément qui va devenir sa nourriture. Ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre, c'est l'assistance. Et puis alors nous voyons que quand la parole a été lue, comme on vient de nous le rappeler, tout le peuple qui s'est tenu debout et répond Amen, Amen. Et là aussi, un enseignement pratique pour nous. Quelquefois, nous sommes attristés d'entendre peu d'Amen aux prières, dans les réunions de prière. Amen signifie qu'on s'est approprié ce qui a été exprimé, qu'on y souscrit pleinement et qu'on est pleinement d'accord et que celui qui a pris la parole a été la voix de l'assemblée tout entière. Le peuple qui dit Amen, mais un Amen répété. Et les voix de nos sœurs, qui sont silencieuses dans les réunions, sont les bienvenues pour ajouter cet Amen. On aime l'entendre, un Amen qui manifeste l'accord de toute l'assemblée avec ce qui a été prononcé. Alors il y a aussi, c'est donc l'assistance, mais il y a ceux qui sont les instruments pour présenter la parole. Et en premier lieu, Esdras, il lit. Et en effet, la parole a la première place, elle est lue, avant d'être commentée, avant d'être expliquée. La seule lecture de la parole, avec toute son autorité et sa puissance propre pour agir sur les cœurs et les consciences. On la lit et on l'écoute comme étant la voix de Dieu. Alors les instruments, les serviteurs de Dieu qui sont là, ces Lévites qui avaient la responsabilité, comme on l'a lu dans Deutéronome 33, verset 10, vaut la peine de lire ce verset. Il s'agit donc de la tribu de Lévi, ce sont les bénédictions de Moïse à la fin du Deutéronome. Ils enseigneront tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Et on remarque l'ordre aussi, chose importante. Dieu est un Dieu d'ordre, comme il nous est rappelé dans les Corinthiens. Et ici, il y a ceux qui se tiennent à la droite, ceux qui se tiennent à la gauche. Leurs noms sont donnés, ils sont des dons précis donnés au peuple. Et leur nom figure là, sans que nous ayons ce que l'un a dit ou ce que l'autre a dit. Tout vient de l'Éternel, tout vient de Dieu. Mais ils sont là, ensemble, d'un même cœur, et le résultat, le peuple s'incline, se prosterne, et ils ont écouté et ils ont compris le sens de la parole qui leur a été présentée.
Si une estrade est construite, ce n'est pas pour mettre en évidence Esdras. C'est pour exalter la parole de Dieu, pour qu'elle soit bien comprise par une lecture distincte, faite avec le secours qui vient de Dieu par son esprit. Et remarquons d'ailleurs qu'Esdras, il a 7 lévites d'un côté, il en a 6 de l'autre. Il n'est pas au centre, ils sont 14. Donc ce qui a de l'importance, c'est la parole de Dieu. L'instrument, bien sûr, qualifié pour la lire distinctement, est utile. C'est la fonction des dons dans le corps, l'utilité. Mais ce qui importe avant tout, c'est cette lecture pieuse et faite avec amour de la parole de Dieu. Et un frère qui enseignait dans les assemblées disait, à l'issue de la lecture, nous avons fait l'essentiel. Et que on peut dire, non seulement la parole nous vivifie par la puissance du Saint-Esprit, c'est par la parole au fond que La nouvelle naissance nous est communiquée avec l'action de l'Esprit, produisant cette vraie conviction de péché, cette repentance à salut dont on n'a pas de regret, et la foi au Seigneur Jésus, lorsque la parole opère en profondeur, le travail de Dieu est complet, et l'âme peut, étant vivifiée, scellée du Saint-Esprit, exalter la parole de Dieu dans sa vie. D'ailleurs, nous considérons quelquefois avec humiliation, pour nous-mêmes, quant à nous-mêmes, l'intérêt que de jeunes enfants dans la foi portent à l'Écriture, désirant la mettre en pratique dans leur vie, s'interrogeant sur tel ou tel point de leur vie chrétienne, alors que plus tard, peut-être, on vit davantage d'habitudes, peut-être même de traditions. Eh bien, à tout âge, la parole lue, la parole crue, devrait entretenir des affections vivantes dans nos cœurs et une disposition de notre esprit soumis à l'autorité du Saint-Esprit qui nous communique la parole de Dieu pour le profit de nos âmes. Et nous voyons d'ailleurs que tout le peuple se tient debout quand on lit l'Écriture. Quel respect, quel honneur est apporté à cette réception de l'Écriture. Il y a là quelque chose de très touchant. Et pourtant, il n'avait pas encore toute la parole comme nous l'avons. Mais il nous indique le chemin de la bénédiction par leur attitude et la disposition du cœur qui reçoit simplement ce que Dieu dit, et nous voyons les effets produits immédiatement. Cela est de toute beauté. Et nous voyons aussi quand Esdras commence par bénir l'Éternel, le grand Dieu, et il rend grâce, autrement dit, comme nous le voyons à propos de la scène. Un passage déclare que le Seigneur bénit, un autre que le Seigneur rendit grâce. Ici, eh bien, il rend grâce devant Dieu. Le peuple a ouvert son oreille, l'oreille de son cœur, quand il l'ouvre, et tout le peuple se tient debout. Cette expression revient une douzaine de fois, tout le peuple, cette merveilleuse unité de ce peuple qui est disposé avec les enfants à écouter ce que le scribe lit. Et nous voyons qu'une fois qu'ils ont prononcé ce double amen, les mains sont élevées, ils s'inclinent, ils se prosternent devant l'Éternel, le visage contre terre. Autrement dit, ils adorent. Ils sont en présence du Dieu qui se révèle par sa parole. Ils ne peuvent que se courber dans l'adoration. Esdras ayant l'initiative des actions de grâce. Et combien il est beau pour Dieu quand son peuple a de telles dispositions, mais cela ne peut être produit que par Dieu lui-même. C'est l'esprit du réveil, ce réveil qui les anime pour la gloire de Dieu, malgré le petit nombre, malgré leur faiblesse, malgré un certain manque de séparation que nous découvrons au chapitre 9 et qui va produire l'humiliation. Mais le cœur est engagé par la lecture de la parole de Dieu.
Nous aimerions faire quelques remarques au sujet de diverses interventions qui viennent d'être faites d'une façon combien solennelle. La première remarque au sujet de l'importance de la lecture de la parole de Dieu, et nous aimerions relever cette expression, figure au verset 3e où il est dit que la lecture a été faite depuis l'aube jusqu'à midi. Il vaut la peine de tirer une instruction pour nous-mêmes de ce fait. C'est que la lecture de la parole de Dieu sera infiniment plus profitable le matin, quand l'esprit est encore disposé et disponible pour la parole de Dieu, avant que toutes les obligations de la terre n'occupent l'esprit. Et il vaut la peine de rappeler que les études peut-être les plus profitables de la parole de Dieu se font le matin. Cela demande de l'énergie, du courage, de la consécration, mais si l'habitude est prise, ensuite il est plus facile de s'y soumettre. C'est une remarque qui n'est pas sans intérêt pratique pour chacun de nous. Depuis l'aube jusqu'à midi, au moment où à midi il y a la chaleur du jour qui nous parle de toutes les obligations auxquelles nous sommes liés, eh bien c'est avant ce midi que la lecture est le plus profitable. Nous aimerions dire encore deux mots sur le sacrificateur. Quand on parle du sacrificateur, comme le nom est lié au nom de sacrifice, on pense d'abord à ce que le sacrificateur apporte devant l'Éternel. Il apporte des sacrifices. N'oublions pas pourtant que l'office de sacrificateur est un office de médiation, c'est-à-dire qu'il est l'intermédiaire entre le peuple et l'Éternel. Alors, cet office de médiation ne se faisait pas à sens unique. Il y avait d'une part le sacrificateur qui représentait le peuple devant Dieu. Et il le représentait de deux manières. D'une part, en apportant des sacrifices pour que ce peuple soit agréé devant Dieu. Le sacrificateur par lui-même ne pouvait rien, il ne pouvait avoir une action devant Dieu que sur la base du sacrifice. De la même manière, le Seigneur Jésus a un office de médiation. Maintenant, il est sacrificateur sur la base du propre sang qu'il a apporté dans les lieux saints, image du jour des propitiations. Et il y avait un autre office qui était celui de recevoir la pensée de Dieu est de transmettre au peuple. D'un côté, le sacrificateur représente le peuple, d'un autre côté, il représente Dieu devant le peuple. Et comment cela se faisait? Comme cela a été dit, rappelé dans le livre de Malachie, il était le dépositaire de la loi, puisque la loi se trouvait dans le lieu très saint, et que lui seul avait l'accès dans ce lieu très saint, il était dépositaire de la loi et devait ordonner cette loi, la transmettre au peuple, enseigner le peuple. Voilà un office qui est souvent oublié et qui est pourtant de la plus grande importance, l'office de sacrificateur et de médiation. Encore un mot au sujet des dons. Il a été parlé des dons selon Éphésiens 4 pour l'édification de la maison de Dieu et la croissance du corps de Christ. C'est bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Il y a un autre office, et combien important, c'est celui qui unit tous les membres du corps de Christ. Le don est nécessaire dans la maison de Dieu pour l'unité de cette maison. C'est ainsi que nous lisons ce verset qui n'est pas toujours très bien compris, parce que c'est vrai qu'il représente une certaine difficulté de compréhension. Dans le chapitre 4 des Éphésiens, il est dit « Duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit selon l'opération de chaque partie, dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. » Nous voyons donc qu'il y a l'origine, c'est Christ, à partir duquel, c'est Christ, tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, c'est-à-dire parce que les dons fournissent. Alors les dons représentent ces jointures entre chaque élément du corps pour sa croissance et pour son fonctionnement. Il y a toujours les deux éléments qui sont présents dans la pensée des dons. À ce moment-là, ce chaque élément produit selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, c'est-à-dire chaque élément du corps est appelé selon sa mesure à produire l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même, c'est-à-dire du corps, pour l'édification du corps en amour, dans la pensée de l'amour de Dieu qui unit ainsi tous les éléments de ce corps. Voilà quelques remarques que je souhaitais faire au sujet des diverses interventions qui ont été faites tout à l'heure.
Nous aimerions souligner aussi quelque chose d'important. Il est dit que, au verset 5, Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Il doit y avoir, de la part de ceux qui entendent, de la part de ceux qui écoutent, un saint respect pour celui que Dieu a qualifié pour enseigner dans l'assemblée. Et à ce propos, je désirerais lire deux passages dans la première épître à Timothée, le premier au chapitre 4 et au verset 13, où il est dit à Timothée: jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Nous savons qu'ici, il est question de la lecture à haute voix. Et comme on l'a dit, le plus important quand un frère se lève dans l'assemblée, eh bien la lecture de la parole de Dieu. Nous avons déjà la nourriture. Et puis le deuxième passage, c'est celui de 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui président dûment soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous savons que dans le monde, il est de bon ton de tout discuter, de ne pas admettre une pensée sans la discuter. Eh bien, dans l'enseignement que nous recevons de la parole de Dieu, il ne doit pas y avoir cet esprit-là. Nous devons recevoir ce que l'Esprit nous donne, et il donne toujours quelque chose. À travers la faiblesse du vase, Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner. Et si notre oreille est attentive, si notre cœur est disposé, eh bien nous recevrons une bénédiction. Celui qui a soif, eh bien il est rassasié. Oui, puissions-nous, quand nous écoutons un serviteur qui ouvre la parole de Dieu, qui nous enseigne, recevoir ce message comme venant de Dieu lui-même, parce que au fond, ici Esdras est même un type de Christ. Cela nous fait penser à ce passage de Apocalypse 5, quand l'agneau ouvre le livre. Et ici, il est dit, il ouvrit le livre. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui est au milieu de nous. C'est Jésus qui vient nous parler, par la bouche d'un homme sans doute, avec ses faiblesses, avec ses imperfections de langage. Mais puissions-nous discerner, derrière celui qui parle, Dieu qui nous parle et qui veut notre bien, qui veut nous bénir, qui veut nous enseigner pour notre profit.